connaît en écologie.
On sort des mouvements de colère des routiers en France.
CO2.
Qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller vite, avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique, et assistée de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. On va d'ailleurs commencer par un salut à Aung San Suu Kyi et aux citoyens de Birmanie à qui nous souhaitons moins de cyclones et plus de liberté. Welcome donc en France, première destination touristique mondiale avec ses châteaux, ses vignobles, ses fleuves, ses estuaires et où on observe depuis quelques années une baisse préoccupante de la fréquentation des anguilles européennes. À tel point qu'un article intentiné perfide albionesque, dirons-nous, publié jeudi par le quotidien britannique The Independent, accuse la France de signer l'arrêt de mort de l'anguille. Alors rappelons que dans les années 80, les jeunes anguilles, donc les civelles, étaient des millions à faire chaque année la route du Rhum à l'envers, depuis la mer des Sargasses pour visiter l'Hexagone. 6000 km le long du Gulf Stream, donc c'est un bel exploit pour des alevins de quelques millimètres, même pas équipé de GPS. 20 ans plus tard, on a perdu 99% des anguilles. Alors la faute aux PCB, aux poisons accumulés dans nos rivières, et puis aussi la faute à la surpêche. Hein. Destination les marchés d'Asie, cette pêche. Il faut dire que 1000 euros le kilo, ça vous suscite quelques vocations. Moi, quand je serai grande, je serai brochette dans un restaurant chinois. Chouette. Un argument de poids qui a fait valoir la France à Bruxelles pour bloquer le projet européen d'embargo sur les exportations de civelles. Vous n'en avez pas entendu parler. Donc ça tombe bien, ce mois-ci, c'est l'ouverture de la pêche à la civelle. Un ministre de la pêche donc assez multirécidiviste qui a bien compris que l'environnement ça commence à bien faire et qui réclame par ailleurs le maintien des quotas de pêche au thon rouge et le report de la dette de nos thoniers qui s'étaient fait prendre la main dans le filet en 2007 après avoir pêché deux fois leur quota. Alors vous savez, les quotas de pêche, hein, c'est comme les radars sur la route, hein, un petit coup de frein et puis après hop là, on repart à fond. D'après l'étude publiée le week-end dernier par une équipe de journalistes, le marché noir du thon rouge, c'est quand même un thon sur trois, et ça nous fait un butin de 400 millions d'euros, bon an, mal an. Au fait qui ne permettent pas à Bruno Le Maire de décrocher le prix Pinocchio du développement le moins durable, décerné cette semaine par les Amis de la Terre. Alors ce prix, donc Pinocchio, c'est une compétition qui n'est pas facile à vrai dire quand vous avez les lauréats de poids lourds du développement insoutenable. Vous avez vu par exemple dans la catégorie environnement la compagnie minière Eramet qui s'apprête à tailler dans les forêts de l'île indonésienne d'Halmahera. Ou bien dans la catégorie droit humain, vous avez la société Somdia qui exploite la canne à sucre sur le dos des habitants de la région du au Cameroun, sans oublier dans la catégorie l'éco-blanchiment, le Crédit Agricole, dite la Banque Verte, qui est récompensé pour sa participation au financement de la centrale à charbon de Medupi en Afrique du Sud. Alors le problème avec les droits humains, l'environnement et le reste, comme dirait Aung San Suu Kyi, c'est comme la liberté, ça n'a pas de prix. Quatre chapitres dans ce magazine que nous allons feuilleter dans quelques instants. Ça va être Jean-Marie Pelt. Et puis ensuite, je vous emmènerai dans un lieu assez unique en France. C'est la deuxième zone humide de France après la Camargue. Ça va être le Marais Poitevin. Donc on ira pas très très loin de Niort. On ira du côté de Coulon. Donc glisser sur une barque. On va se faire, je pense, à la fois du bien. Puis il y a quand même aussi quelques problèmes environnementaux gentiment gratinés. Bon, et puis il y aura l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Et puis on terminera par un petit agenda. Alors je vous l'ai dit, Jean-Marie Pelt, il est là, c'est à nous. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons parler de l'homme, de la nature et de ce dessin partagé. C'est une histoire qui remonte à quand ou bien quand a eu lieu cette coupure?
Ben, le destin partagé de l'homme et de la nature, ça remonte à l'origine même de l'humanité. Parce que les humains, avant nos générations, disons depuis 200 ans, ont été complètement immergés dans la nature. Et ils n'auraient jamais eu l'idée de penser qu'ils puissent s'en séparer, voire s'en passer. Grâce à la vie urbaine, grâce aux technologies, grâce à la modernité, aujourd'hui, on peut imaginer que la nature, on l'a domptée, qu'elle est à notre service, et que par conséquent, nous avons à regarder ailleurs. Oui. Alors, cette idée que le destin de l'homme et de la nature est partagé est très important parce que si nous perdons nos racines dans la nature, nous lui infligeons beaucoup de prédations, nous faisons beaucoup de dégâts, et on découvre maintenant, mais c'est récent, mais on le découvre maintenant, que ça se retourne contre nous. Et quand, à un moment donné, la nature ne parvient plus à nous porter, tout se passe comme si elle ne pouvait plus non plus nous supporter. Alors, on va prendre des exemples, parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant.
On va aller en Chine, d'abord.
Oui, en Chine. C'est très frappant ce qui se passe en Chine. Il y a eu des catastrophes naturelles en série en Chine. Et vous remarquerez que c'est pratiquement toujours le même scénario. C'est d'énormes coulées de boue. Parce qu'on a déboisé toute la partie occidentale de la Chine. Mais c'est un pays de mousson. Les pluies sont des pluies très fortes qui tapent sur un sol qui est déboisé et qui par conséquent ne retient pas l'eau qui se précipite à toute vitesse, emportant beaucoup de sol dans les rivières lesquelles débordent très rapidement. Et là, on s'aperçoit que si on n'avait pas déboisé à ce point, eh bien, il n'y aurait pas ces énormes inondations. Oui. Voilà, c'est un exemple où on voit que l'activité humaine s'est finalement retournée contre les humains.
Alors on peut penser en 98 à la crue du Yangtze, hein, parce que qui a submergé à peu près une superficie égale à la moitié de celle de la France.
Tout à fait, c'est des chiffres qui sont à l'aune de la Chine, évidemment. Alors on a le même scénario d'ailleurs qui se passe dans l'Himalaya, au Népal, où il y a sans cesse des coulées de boue aussi à répétition, parce qu'on déboise aussi ces bassins versants, très, très verticaux d'ailleurs, parce que l'Himalaya descend d'une manière très brutale sur la plaine du Gange. Et je pense, quand on évoque ces questions à mon ami Bruno Manzer, que j'ai bien connu, qui était un anthropologue amateur suisse, très militant, qui a vécu chez les Indiens Pénang à Bornéo, et qui nous racontait, c'était très émouvant, que ces Indiens voyaient sous leurs yeux disparaître la forêt qui était leur propre existence. Et que lorsque la forêt n'était plus là, ils n'avaient plus de territoire de chasse parce qu'il n'y avait plus de gibier. Ils n'avaient plus non plus de territoire de pêche parce que les rivières étaient devenues limoneuses, toujours par le même processus, parce que s'il n'y a plus de forêt, l'eau n'est pas retenue et se précipite dans les rivières et y emmène de la boue. Donc ces gens n'avaient plus les possibilités de se nourrir. Et cette ethnie était en voie de perdition. Alors Bruno, qui était un homme très courageux et riche de convictions et très humaniste, a voulu les défendre par rapport aux riches propriétaires de ces forêts qui les exploitaient honteusement pour vendre le bois à la Chine d'ailleurs. Et puis il a disparu. Parce qu'on l'a assassiné, oui. Évidemment, il fait partie de ces martyrs de l'écologie dont on ne parle jamais, mais qui ont tout de même donné leur vie pour leurs convictions.
On retrouve un peu ce phénomène aussi en Amazonie.
Alors en Amazonie, c'est exactement la même chose. Il y a aussi d'ailleurs Chico Mendes qui a disparu de la même manière, assassiné aussi. C'est toujours le même processus, c'est on dégrade la nature très fort, ceux qui la défendent prennent des risques physiques. Et puis, une fois que la nature est abîmée, il y a des catastrophes naturelles. Mais l'exemple le plus spectaculaire, c'est évidemment le réchauffement climatique. Nous avons, parce que nous avons brûlé plus de la moitié des réserves de pétrole en un siècle et demi, et beaucoup de charbon, mis dans l'atmosphère beaucoup de gaz carbonique. Alors, la question, c'est ceci. On a bouleversé l'atmosphère et on va payer la facture. C'est toujours la même idée. Alors, j'ai présenté des textes très émouvants sur ce sujet venant des Indiens quand ils s'adressent au premier président américain qui, naturellement, veulent s'emparer de leurs terres. Alors, d'abord, ils sont stupéfaits qu'on veuille leur acheter leurs terres parce que c'est pas à eux. C'est la première réaction qu'ils ont. Qu'on comprend très bien, parce qu'ils disent le souffle de l'air, les bisons, le vent, la clarté de l'eau claire avec les poissons. C'est pas à nous tout ça. Mais nous, nous vivons avec tout ça. Parce que nous ne pourrions pas exister non plus si tout ça n'était pas là. Alors ils disent pas le protéger, parce que l'idée de la protection de la nature est venue plus tard. Oui. Mais il faut vivre avec en harmonie, c'est ça leur idée. Et alors, à la fin de ce très beau texte, j'ai beaucoup aimé ceci, il dit « Si vraiment vous voulez nous acheter cette terre, alors vous la prendrez de toute façon, mais n'oubliez pas que lorsque le dernier homme rouge aura disparu, son souvenir planera toujours sur cette terre parce que les os de ses ancêtres y sont pour toujours. » Et je trouve ça très beau, et très frais et très neuf, pour notre épouvantable civilisation qui est terrible. Denis, nous sommes terribles, nous sommes des brutes. Et il faut entendre ces messages qui nous viennent de la sagesse des ce qu'on appelle les peuples premiers. Et nous écoutons leurs messages et ils ont quelque chose à nous dire.
Voilà, vous retrouvez donc ces textes, celui de Jean-Marie Pelt dans La Voix du Bonheur, avec aussi donc ces superbes photos de Solgado. Et c'était aux éditions de La Martinière. Merci Jean-Marie et à très vite.
On cueillait des murs sur les ronciers au bord de l'Isère. On cueillait des murs et des baisers, encore un peu verts. On regardait les filles riaient, souriaient sous leurs jupes jonquilles. Les fruits de l'été s'éveillaient, on cueillait des murs sur les au bord de l'Isère. Et si les ronds sous l'amour piquaient, la belle affaire, c'était l'âge où l'on remplissait nos premiers cendriers. On rêvait de vivre sans se plier, histoire de se distinguer. C'était l'âge où l'on se saoulait de toutes les idées. On cueillait des murs sur les ronciers après le ciné. Ces vieux films en noir et blanc, mais faits comme on les aimait. On parlait pour les filles. Les filles écoutaient à côté, il fallait que l'on brille pour les approcher de plus près. Le monde qu'on voulait, le sourire aux lèvres pour mieux cacher qu'un jour tout allait changer. C'était l'âge où l'on attendait l'avenir qui venait. On cueillait les murs sur les ronciers au bord de l'Isère. Sous la vie piquée, la belle affaire. Il n'y a plus de murs ni de ronciers au bord de l'Isère.
Toujours très agréable, c'est évidemment les ronciers choisis par Muriel Pérez, notre programmatrice. Et on reste quand même dans l'eau, donc on va quitter l'Isère pour se retrouver donc dans le Marais Poitevin. Et là, venez, vous allez monter sur une yole. Alors la yole, c'est plus petit qu'une plate, mais c'est donc une barque. Puis après, je vous raconterai un petit peu les lieux. On y va. On a un fût de canon là qui sort d'un mur.
Jolie décoration,
on va
dire.
Décoration. Ouais.
Les gens sont beaucoup plus accueillants qu'on peut le penser, hein, oui. Premier abord.
Alors, on va vous dire où nous sommes aujourd'hui, parce qu'on est sur une conche, on est dans le Marais Poitevin. On va rappeler avec vous, Richard Joseph, ce qu'est une conche, ce que c'est.
Alors, c'est une voie d'eau qui permet d'accéder aux différentes parcelles qui jalonnent le Marais mouillé. Bon, déjà, j'ai sorti le terme Marais mouillé parce que quand on regarde le Marais Poitevin, c'est un territoire qui est très composite. Ouais. On a ce qu'on appelle le Marais mouillé, qui est un marais qui est inondable. et qui est bordée par ce qu'on appelle le marais desséché, qui est un marais qui n'inonde pas, qui est protégé par des digues, digues qui empêchent donc l'inondation de venir envahir les terres, et de l'autre côté, du côté océan, donc une digue qui empêche la remontée des eaux de mer, puisque l'ensemble est en dessous du niveau de la mer.
On a un maillage quand même assez étonnant, on a aussi bien les dunes du littoral, on va avoir donc les plaines agricoles, on va donc avoir ce marais, on va avoir donc ces canaux, et tout ceci forme quand même ce qu'on appelle un écosystème, même s'il a été quand même beaucoup beaucoup bouleversé, on pourrait y revenir, mais ça donne une mosaïque très intéressante.
Alors on a une mosaïque de paysages qui est assez hallucinante, hein. Sur 50 km on peut avoir une grande diversité de paysages et de biotopes, mais ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que l'ensemble de ce territoire a été complètement modelé par l'homme.
Oui.
Là actuellement on est sur une conche, on est j'irais en bordure du marais mouillé, hein, puisqu'on voit les maisons qui sont sur le bord de ce marais Poitevin.
Oui.
Tous les arbres qui sont ici ont été plantés de main d'homme.
Eh ben oui, au Xe siècle, vous auriez pu parler avec les moines, hein, donc ils se sont installés avec leurs abbayes sur les îles, et puis bah, qui se sont lancés dans ces grands travaux d'assèchement. Au XVIIe siècle, on aurait pu rencontrer Henri IV, qui a fait appel à ses copains protestants ingénieurs hollandais, afin de conquérir d'autres parties donc, de ce marais mouillé. Donc c'est vrai que c'est vraiment la résultante du travail de l'homme. Et là, je vais vous emmener dans un très beau tunnel de verdure, avec un arbre emblématique qui est le frêne têtard. Alors ça, il est intéressant celui-là, parce que vous avez des racines qui sont denses et qui fixent les berges, qui évitent l'érosion et en plus qui fournit un excellent bois de chauffage et un fourrage aussi qui permet de nourrir les bêtes en période de sécheresse. Alors on est à cheval sur les deux serres, la Charente-Maritime et la Vendée. Bon, c'est vrai qu'il a eu des problèmes ce parc parce qu'il a pas été bien géré, faut bien le dire. Donc il a perdu son label de parc naturel régional, mais maintenant il est devenu parc interrégional du Marais Poitevin. Les choses vont mieux, il est intégré au réseau Natura 2000. Et donc on va prendre place dans cette grande barque avec à la pigouille. Hein, la pigouille, c'est la grande gaffe qui permet d'avancer. Vous avez Julien Leguet qui est un jeune enfant du Marais, un habitant du Marais. Et Richard Joseph qui est technicien environnement dans ce parc du Marais Poitevin. On n'est pas très loin de Coulon, on n'est pas très loin du Mazot. On est dans ce terrain de lumière, de verdure, d'eau et surtout de calme. C'est un puissant anxiolytique naturel. Allez, montez avec nous, c'est parti.
Alors on a une très jolie vue parce qu'on ne voit pas la fin de cette conche qui est assez large, hein, qui fait 30-40 mètres à peu près, qui va donc très très loin. Donc c'est une artère, vraiment c'est ça. Il faut imaginer des vaisseaux plus fins, mais là on est plutôt sur une artère. Et dans ce milieu, qu'est-ce que l'on peut apercevoir? Alors à la fois comme faune, c'est le domaine de quoi? De l'anguille, de la loutre aussi?
Oui, c'est vrai que de se rendre compte qu'on est ici sur un des derniers bastions de la loutre au niveau national. On a estimé dans les années 80 à près de 10% de la population de loutre présente sur ce territoire. Donc là, on a pleinement conscience qu'on a quelque chose à jouer sur ce territoire, qu'on est responsable d'une certaine manière de cette biodiversité.
C'est un excellent baromètre de la qualité de l'eau. Hein.
C'est surtout un excellent baromètre de richesse alimentaire de ces eaux. C'est évident qu'on ne trouvera pas facilement de loutre sur des territoires très chargés en métaux lourds, parce que par le phénomène de concentration biologique qui fait que de quelques microgrammes ou nanogrammes dans le milieu, on va se retrouver au sein des super prédateurs avec des taux de concentration qui peuvent être létaux. Donc ça, à ce niveau-là, la loutre est un bon indicateur. Par contre, sur les qualités d'eau, en termes de nitrate ou de phosphate, elle indique pas grand-chose. Elle indique qu'il y a à manger sur le territoire.
Richard Joseph, racontez-nous un peu donc ce paysage. On arrive à une intersection. Hein. Oui, c'est ça, on est à un carrefour de petites voies départementales comme ça. Là.
Oui, l'image est belle parce qu'il y a effectivement un parallèle à faire entre le réseau routier et puis le réseau aquatique. Les fossés sont les moyens d'accès aux parcelles privées. Donc on pourrait comparer ça aux voies communales ou aux voies privées. Les conches qu'on a évoquées tout à l'heure sont les petites départementales. Et puis lorsqu'on passe à la taille de 30-40 mètres, on se retrouve sur des canaux. Tout ce réseau étant bien interconnecté. Et tout ce réseau vient se greffer sur les grands fleuves qui vont se jeter en baie de l'Aiguillon. Donc on a vraiment un véritable labyrinthe aquatique qui permet à la fois de contenir de l'eau, hein, puisque le marais a besoin d'une réserve en eau, mais aussi de constituer un véritable réseau de communication.
Julien Leguet, ce marais quand même, il revient d'assez loin, parce qu'il a perdu son label. Il faut dire que ça a quand même été pas simple, parce que gestion sur 3 départements, sur 2 régions, c'est quand même très compliqué d'un point de vue politique.
Ah, attends, il y a un chevreuil là, qui me regarde, excuse-moi.
Merveille.
Qui est pas affolé. Puis on a en fond sonore aussi sur la droite, là, l'espèce de cri qui est le loriot qui chante aussi, un petit peu chant d'alerte. On l'a en fond sonore. Pour moi, le marais, ça reste 100 000 hectares de zone humide. Et il faut le revendiquer haut et fort. Aujourd'hui, il y a une véritable, un glissement dans la dialectique sur ce territoire et on essaie justement de faire admettre que les marais desséchés, finalement, aujourd'hui, ils ont été desséchés, donc c'est plus la zone humide.
Ouais, c'est ça.
Sauf que ce qui fait que ces zones vont avoir un rôle à remplir, que ce soit en accueil de migrateurs ou de nicheurs, je parle notamment pour les oiseaux, les amphibiens, ce qui va également faire que ces territoires vont garder leur caractère de zone humide, c'est justement la gestion de l'eau. Et cette gestion de l'eau, l'homme la maîtrise intégralement. Je pense qu'il faut être vraiment très vigilant et dire si on veut que ça reste une zone humide, il faut s'en donner les moyens. Et ça passe par la gestion de l'eau.
Alors, il y a quand même eu quelque chose qui s'appelle la PAC et qui n'a pas exactement aidé cette fameuse gestion.
Évidemment, on est bien là un des problèmes centraux qui concernent, je crois, l'ensemble des zones humides à l'échelle européenne ou mondiale, c'est que ce sont les espaces de plus forte productivité de biomasse. Donc c'est à la fois vrai en termes de biodiversité, mais c'est également vrai en termes de production agricole. Et le marais Poitevin est un petit peu emblématique de cette lutte, puisqu'aujourd'hui, elle se formule bien en termes de lutte, entre d'un côté les enjeux pour la biodiversité et de l'autre côté les enjeux économiques. On est encore bien loin du fameux développement durable dont on nous tartine tous les jours les oreilles.
Bon, les enjeux c'est quoi ? Qu'est-ce qui est frontal aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui est frontal aujourd'hui ? C'est le développement d'une agriculture intensive avec en ligne de mire la culture du maïs.
Qu'est-ce que ça représente en surface ?
En surface, ça représente à peu près la moitié des 100 000 hectares. Le reste se répartissant à peu près 30 000 hectares de marais mouillés. Même si localement, il y a des champs de maïs, on reste quand même sur des petites parcelles, des choses comme ça. Et puis, il y a encore une partie du marais desséché qui est encore de la prairie naturelle et sur lequel se concentre une partie des gros enjeux en termes de biodiversité.
Ah, tiens, on a entendu un faisan, là. Est-ce qu'éventuellement, Julien, alors un peu plus loin, parce qu'on n'est pas complètement dans le secteur, mais on pourrait apercevoir Rabelais.
Ou Gargantuas.
Gargantuas.
Oui. Je dois être de la descendance.
Non, oui, vous avez une bonne taille. Pour ça, je me tournais vers vous.
D'accord. C'est vrai qu'il y a toujours cette légende.
Où il aurait fait ses besoins, quand même, c'est ça. Et c'est ça qui a donné naissance au marais Poitevin.
C'est ce qui se raconte.
Ah, oui. On poursuit notre voyage à travers ce dédale de sentiers d'eau. Alors, il y a deux mots qui sont très intéressants. C'est l'empreinte et l'épreinte. Alors, l'empreinte, on sait ce que c'est. Et l'épreinte, c'est quoi ?
Alors, l'épreinte, c'est la crotte de la loutre. Ça vient du vieux français « épreindre », qui signifie « faire par petits paquets en se forçant ». Donc, la loutre se sert de ses épreintes pour marquer son territoire. Et c'est un excellent indicateur pour nous, parce qu'on repère les sites où elle dépose ses épreintes, et ensuite, on peut faire l'analyse du régime alimentaire de l'animal.
Là, Julien était à la manœuvre, là.
Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de chercher. J'avais eu l'impression, comme ça, de voir une épreinte sur un haut de racine. C'était une fausse piste. Ah ben, tiens.
Si,
de toute façon, le secteur était favorable. Voilà, une confluence. Et c'est vrai que ce sont des carrefours obligés un petit peu pour la loutre. Je crois que la loutre peut sortir de l'eau la nuit jusqu'à 40 reprises pour épreindre, justement.
D'accord.
Et c'est vraiment son marquage de territoire qui correspond à ça.
Ouais.
Ça nous renseigne donc sur son régime alimentaire. Et puis également, ça nous permet finalement de savoir où est-ce que la loutre est encore présente sur ce marais. Parce qu'en dehors de ses petites épreintes et de temps en temps quelques restes de nourriture, elle est plutôt avare. De sa présence, on la voit jamais, on l'entend jamais. On n'a plus, pauvre naturaliste, qu'à chercher ses restes.
Mais c'est bien, c'est une bête que l'on rêve davantage qu'on ne la voit.
Oui, elle est magnifique, oui. Ouais. C'est notre chimère maraîchine, elle est là. On la sent parfois. Hein,
Ah oui, bien sûr. Non, ça, le poisson, ça y va quand même.
D'ailleurs, c'est une des particularités de l'épreinte. Hein. On peut la reconnaître notamment à son odeur, qui est qualifiée, et je trouve ça assez juste au bout du compte, d'odeur mêlée de poisson et de miel.
Alors de temps en temps, là, Julien, quand vous enfoncez votre pigouille, on voit quand même une bulle qui remonte. Et ça, c'est intéressant parce que, on le rappelle, hein, territoire de tourbière, et ça veut dire qu'au fond, c'est des bulles de quoi ?
C'est des bulles de méthane. C'est le résultat de la fermentation anaérobie, donc en absence d'oxygène, de l'ensemble des végétaux qui tombent au fond de ces canaux. Du coup, ça génère un phénomène assez extraordinaire sur ce territoire. On ne peut pas faire un tour de bateau sans montrer le feu sur l'eau. Ouais. Parce qu'en effet, si on brasse le fond, on fait remonter toutes ces bulles de gaz et elles sont donc inflammables.
Vous mettez une allumette et en gros, vous avez des feux follets sur le canal. Là.
Oui, voilà, des feux bleus quand on est à la tombée de la nuit. Feux follets, les ossements et le phosphore. Là, c'est le méthane qui est en jeu.
Joël, quand on parle de l'avenir de ce marais, on va le rappeler, donc il a perdu son label. Aujourd'hui, il y a quand même tout un travail qui a été fait, il y a une prise de conscience, c'est une carte postale absolument incroyable, c'est une réalité biologique extrêmement forte, et puis il y a quand même toujours ces antagonismes. Alors, ça peut être quoi l'avenir ?
Il y a deux schémas. On s'empare de la biodiversité, on crée ce schéma de développement durable, et on recentre les cultures. On est sur des territoires qui peuvent nourrir des hommes. Ou comme ailleurs, les gens sont en train de redécouvrir le bio et le mérite du petit légume qui est planté sur la parcelle d'à côté de sa maison. Et ce territoire aujourd'hui ne nourrit toujours pas ses habitants et ne nourrit pas non plus les touristes qui y viennent. Alors c'est ça moi que j'ai jamais compris sur ce territoire, c'est qu'on a une formidable fenêtre sur le reste de la France et de l'Europe et on n'a jamais su accompagner ou implanter ceux qui seraient susceptibles de redonner sa vraie valeur à ce territoire. Et donc, il faut vraiment aujourd'hui trouver les canaux. Et on ne peut pas avoir meilleure terre que celle du Marais.
C'est extraordinaire.
Ça, c'est fabuleux. Là, on n'est pas sur un secteur à mottes, ce qu'on appelle les mottes, c'est les petits jardins. Mais dès qu'on s'approche des villages, on voit, ça expose de légumes en tous sens. Et...
proximité, localisation, une fois de plus.
Exactement. Hein. Ouais. Je pense que c'est la seule alternative qu'on puisse donner, à l'inverse, à la mondialisation de nos productions, à l'exportation, à l'autre bout de la planète.
Et aux camions dans tous les sens.
Exactement. Il n'y a pas photo. En plus, les bassins de consommation, ils sont là. On est quand même à quelques kilomètres de Niort, qui est aussi une commune quand même avec une classe moyenne assez représentée, un certain pouvoir d'achat, on est à proximité de La Rochelle.
Oui, donc il y a une manière de réorienter cette affaire-là. Quoi.
Ah oui, sauf que il faut créer d'autres outils financiers pour permettre l'installation, parce que aujourd'hui, si on regarde un petit peu le tissu socio-économique local, il est complètement destitué. On est allé comme ailleurs dans les concentrations d'exploitation agricole. Hein. Maintenant, sur ces communes-là, il y a 2-3 exploitants qui possèdent plus de la moitié des terres. Quand un jeune veut, c'est pas possible. Ouais. Les affaires donnent pas les terres. Et puis, il n'y a pas les aides financières au bio équivalentes aux autres productions. Là, on entend un héros cendré qui est en train de passer au-dessus de nos têtes, là, à la cime des peupliers.
Ah oui.
Vraisemblablement qu'il est en train de rejoindre sa petite héronnière qui se situe à moins de 3 km ici avec l'oiseau. Et il y en a un deuxième qui décolle, ouais. Ça, c'est une des espèces phares de ce marais. On a 5 espèces différentes d'ardéidés, donc la famille des hérons, présentes sur l'ensemble du territoire. Il y a le héron pourpré, lui, qui va partir du côté du Sahara pour sa migration. On a le héron biro, les grêtes garzettes, le héron garde-bœuf. Et puis, de temps en temps, l'hiver, il y a le butor étoilé, l'habitant des roselières, qui se souvient qu'ici, il y avait des roselières autrefois, et puis qui doit avoir programmé quelque part le fait que c'est une zone de passage obligatoire. Malheureusement, le pauvre vieux, des roselières, il n'en a plus pour l'accueillir. Et ça fait bérette d'années, comme on dit ici, qui niche plus.
Là, on la voit, la vache maraîchine. C'est pas la plus costaud, hein. On n'est pas dans des Holstein et tout ça, mais pourquoi elle est adaptée au milieu, celle-là ?
On est sur des terrains tourbeux. quand ils sont pas tourbeux, ils sont argileux. Ouais. Et il faut pas peser une tonne si on veut se maintenir sur ce type de territoire. Et puis, il faut également avoir un solide système digestif qui permette de digérer autre chose que le simple raie gras, mais toutes ces plantes là qui poussent dans les marais, les salicaires, les carex, etc. Le roseau également, peut-être un fourrage pour l'espèce adaptée.
J'ai envie de vous offrir la musique du vent dans les arbres, parce que là, en fait, c'est la bonne force. Hein. Évidemment, c'est pas de la tempête, loin de là. Mais c'est juste ce qu'il faut comme vibrato. On se laisse happer comme ça par...
C'est le marais qui nous parle. Hein. Le marais n'est jamais silencieux. Le silence, c'est la mort, et le marais, c'est la vie. Il y a toujours un petit troglodyte pour chanter au fond du terrain. Il y a toujours la griffe musicienne qui est là, qui nous enchante. Non, c'est la vie, ce marais.
Merci à Richard Joseph, à Julien Leguet, que vous avez aussi pas mal entendu. Et puis, je tiens à vous citer un ouvrage qui s'appelle Le Marais Poitevin, tout simplement, de Niort à l'océan sous un cerf-volant, parce que les photos ont été prises depuis un cerf-volant. C'est signé Yves Lequellec et Philippe Ferret. C'est aux éditions Patrimoine et Médias. Et puis, je n'oublierai pas Dimitri Gronoff et Valérie Ayestaraï, donc, qui ont mixé ce reportage. Voilà, nous allons passer dans quelques instants au troisième volet. Ça va être l'actualité que Nathalie Fontrelle, elle est presque prête. Allez.
Non, non, on part pas tout de suite, hein. J'attends la fin de CO2 Mon Amour, on ira faire les courses après. En voiture? Ah non, pas sûr, je demanderai d'abord à Denis chez Sue.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
Springsteen, Bruce de son prénom, mais oui, Bruce, heureusement, c'est un album France Inter, heureusement, parce qu'on soutient à fond ce genre de qualité, Because the Night, et là, c'est autre chose.
Les oiseaux dans la oui, charmille.
C'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Eh oui, on ne s'en lasse pas. Bonjour, chère Nathalie Fontrelle.
Bonjour, Denis. Bonjour à tous.
Vous connaissez le Marais Poitevin aussi.
Ah oui, c'est un peu l'histoire des Shadocks. Hein.
C'est-à-dire
Les agriculteurs ont eu des subventions pour assécher les marais. Ils ont planté du maïs. Après, ils ont eu des subventions pour irriguer le maïs.
Et oui, c'est ça. C'est notre très, très beau système.
C'est pas tellement de leur faute. Hein. C'est surtout le système agricole qui est,
on est bien d'accord.
Terrifiant.
Bon, alors, un sujet angoissant, Nathalie, dans notre actualité. Le père du Grenelle de l'environnement va-t-il enlever Matignon et devenir Premier ministre? Ça vous intéresse pas, ça passe.
Écoutez, oui. Pour être franche, oui. Mercredi dernier, Jean-Louis Borloo a présenté les projets de développement des infrastructures de transport dans le cadre du Grenelle.
Ouais.
Le rail, la voie d'eau, les transports en commun, des sujets qui passionnent évidemment les journalistes.
Oui, mais j'ai rien entendu dans les médias.
C'est peut-être parce que le sujet est passé à la trappe. Ah. La vraie question, effectivement, étant... Alors, vous serez Premier ministre ou pas?
Ça suffit pour ce sujet.
Non, mais
sujet.
Non, mais c'est pour parler d'infrastructures de transport.
Ah, ça va bien alors.
Je vais un peu tricher quand même. On parle de rails depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours sur les rails pour Matignon?
Mais ça n'existe.
Vous étiez en forme, vous étiez très bien. Oh, ben c'est parfait, ça voilà. Bon, alors sauf que nous, on va quand même parler, faire le point sur les transports.
Oui, tout de même, hein, c'est quand même un sujet intéressant. Alors d'abord, les TCSP, vous savez, les transports, les transports en commun en site propre, comme le tramway ou les voies réservées pour le bus. En 2008, la France comptait 369 km de transports en site propre. Le premier appel à projet auprès des collectivités locales en a rajouté 400. Et cette semaine... Le deuxième appel à projet en comptabilise 650 à venir.
Ça veut dire que les collectivités sont donc décidées à remettre la voiture à sa place.
Écoutez Louis Nègre, le vice-président du GART.
Le groupement des autorités responsables des transports.
Le but de la démarche, c'est de libérer de la voirie pour en faire bénéficier le plus grand nombre. On constate aujourd'hui un phénomène que l'on appelle l'autosolisme. Quand vous regardez les voitures qui passent devant vous en centre-ville, rares, je dis bien rares, sont les voitures dans lesquelles il y a plus que le conducteur. C'est rare que vous ayez deux personnes et encore plus rare à trois personnes. Par contre, l'équivalent, par exemple, d'un tram classique, c'est 170 voitures en moins. Mais vous rendez une qualité de ville dans vos centres-villes incontestablement meilleur.
Et sur les rails, Nathalie, enfin, même s'il n'y a pas de ligne à grande vitesse entre le ministère d'écologie et Matignon...
Pas encore, non. Alors le Grenelle de l'environnement prévoit 4500 km de lignes à grande vitesse supplémentaires pour relier en fait toutes les grandes capitales européennes. Alors le TGV, c'est bien, bien sûr, mais on reproche à l'État de privilégier les grandes lignes et de laisser tomber les trains régionaux en panne sur des voies vétustes. Réponse du président de Réseau Ferré de France, Hubert Duménil.
Dans les années passées, depuis 30 ans, la France a lancé déjà un programme de lignes à grande vitesse qui est un succès à tout point de vue, un succès commercial et un succès pour l'économie. Mais dans le même temps, nous avons délaissé le réseau existant. Peut-être parce qu'on n'y a pas mis les moyens qu'il fallait, peut-être qu'on n'y a pas mis aussi l'énergie et la volonté politique pour le faire. Le Grenelle de l'environnement met en avant la poursuite du programme de lignes à grande vitesse, mais il dit aussi, le Grenelle de l'environnement, qu'il faut s'attaquer résolument à la rénovation du réseau existant et que c'est une richesse pour le pays d'avoir ce réseau à condition qu'on le modernise. Et donc au-delà des projets de lignes à grande vitesse, nous en avons un autre, nous, un grand projet qui s'appelle la modernisation du réseau existant. C'est 15 milliards d'euros que nous devons investir entre 2008 et 2015 pour que l'ensemble du réseau existant soit modernisé.
Alors évidemment, du côté de la LGV, du côté du Pays Basque, on sait que c'est un peu chaud quand même actuellement. Tenez, écoutez ce son. Ah... C'est très joli. Ouais, c'est très joli. À quelques semaines de Noël, Ecosystem relance sa campagne de communication sur le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Nous en avons eu un petit exemple.
Alors, Ecosystem, vous le savez, c'est l'organisme qui est chargé de financer, et enfin, avec notre argent, hein, puisqu'on paye une contribution, bon, tout de même, c'est une tirelire qui récupère l'argent, qui finance et qui met en place le tri sélectif et le recyclage de ces déchets souvent high-tech. Là, par exemple, c'est la télévision qui parle.
J'étais belle avant. La plus belle des télévisions, si vous saviez comme on me regardait. Et voilà qu'on me remplace par une de ces jeunes télés, plates comme une limande. Allez, laissez donc ces jeunes livreurs qui vous la portent me ramener au magasin. Qui sait si, avant de me recycler, ils ne m'allumeront pas pour une dernière séance.
Collectons pour ne pas polluer. tous les points de collecte sur www.collecton.org.
J'espère que dans la vie, elle parle pas comme ça, la dame, parce que ça s'appelle du handicap. Bon, depuis bientôt 4 ans, donc on nous incite à rapporter nos déchets électroniques. C'est le bilan, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'objectif, c'est de collecter 10 kilos par habitant et par an en 2014 contre 6 kilos en 2009. Je rappelle que chaque année, 20 kilos par habitant sont mis sur le marché.
Les associations estiment que les entreprises ne jouent pas le jeu.
En fabriquant des appareils qui ne durent pas, ouais, qui ne sont pas ou difficilement réparables et surtout en nous poussant à la consommation. Exemple avec l'iPad. Écoutez Anne-Laure Wittmann des Amis de la Terre.
On nous a présenté ça comme la nouvelle révolution, alors que l'objet, pour nous, c'est vraiment le gadget électronique en trop dans nos sociétés d'hyperconsommation. C'est supposé être à mi-chemin entre l'ordinateur et le téléphone portable. C'est supposé remplacer le livre. L'idée de dire, lire des livres sur son iPad, c'est pour protéger la forêt, on va gaspiller moins de papier, etc. C'est quand même une vaste foutaise. Parce que les causes de la déforestation, c'est pas uniquement la production de papier. C'est aussi la déforestation pour dégager l'accès à des mines souterraines. Des mines notamment de métaux et de minerais qui entrent dans la composition des composants électroniques de tous ces iPads et compagnie. Donc c'est absolument faux de dire que les gens vont acheter moins de livres, avoir moins de papier et sauver la forêt. C'est totalement faux.
Mais en même temps, vous ne pouvez pas interdire aux consommateurs d'être tentés et d'avoir envie d'avoir le dernier téléphone portable parce qu'il est plus joli, plus esthétique.
Le consommateur est quand même fortement poussé par le matraquage publicitaire et en même temps, il y a un défaut d'information. Est-ce que le consommateur est au courant que, par exemple, les mines de coltan en République démocratique du Congo, ça entretient un des conflits les plus sanglants sur le continent africain?
Puis ça a aussi décimé un certain nombre de gorilles, parce qu'ils habitent sur ce territoire-là, les chers gorilles. Et on se dit que peut-être les choses vont évoluer avec l'étiquetage environnemental.
L'étiquette verte devait être obligatoire dès l'an prochain, mais un amendement à la loi Grenelle, ça arrive souvent, vous savez, les petits amendements comme ça, a transformé l'obligation en expérimentation pour un an à compter du 1er juillet 2011. Et la secrétaire d'État à l'écologie a d'ailleurs lancé un appel au volontariat auprès des entreprises.
Alors en clair, qui veut relever le défi?
D'après une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui vient de paraître, les données sur l'impact écologique des produits sont plutôt difficiles à obtenir. L'étude porte sur 300 produits. On n'a pas seulement mesuré leur bilan carbone, mais aussi les pollutions de l'eau qu'ils peuvent générer, l'impact sur la diversité biologique. Le problème, c'est que selon la méthode de calcul, le bilan écologique peut varier du simple au double. Il faut donc encore travailler pour fabriquer cette étiquette verte.
Et donc avoir un indicateur qui soit fiable et compréhensible par tout le monde. Mais qu'est-ce qui pèse le plus?
Eh bien, j'ai posé la question à Olivier Jean, auteur de l'étude.
Sur un produit alimentaire, ça va d'abord être les matières premières agricoles qu'on utilise pour la recette du produit. Et ensuite, ce sera sa transformation, sa distribution. Et enfin, la part des transports et des emballages sera généralement d'un second ordre. Ça veut dire par exemple que les matières premières vont peser entre 40 et 70% de l'impact du produit. Le transport, ce sera entre 10 et 20% généralement.
Est-ce que c'est facile de calculer l'empreinte environnementale d'un produit qui est cultivé à l'autre bout du monde, transformé à un autre bout du monde, enfin...
Alors, le calcul en lui-même, il est relativement simple. La difficulté, c'est d'obtenir l'information qui est nécessaire. Et c'est clair qu'un produit agricole qui vient de l'autre bout du monde ou qui est élaboré à une étape de sa vie dans un autre pays... Toute notre difficulté, c'est d'établir une relation de confiance avec un industriel pour qu'il accepte de nous transmettre des informations fiables dont nous avons besoin pour faire les calculs.
Vous pensez que c'est possible de faire une étiquette environnementale sur tous les produits ?
Aujourd'hui, non, on n'a pas toutes les données qui nous seraient nécessaires pour le faire.
Sans compter que les distributeurs ont bien prévenu, il ne faut pas que cette étiquette leur coûte trop cher, sinon les prix vont grimper et les consommateurs vont râler.
Ah, alors Nathalie, il y aura donc une étiquette qui sera obligatoire pour les sept nains et pour tout le monde dès janvier prochain. C'est l'étiquette énergie sur les logements.
De A couleur verte à G couleur rouge, comme celle qui figure sur un certain nombre d'appareils électroménagers. Elle informera les candidats à l'achat ou à la location. Ce logement est un gouffre énergétique ou alors celui-là est sobre.
Alors qu'est-ce que ça peut changer sur le marché de l'immobilier?
Réponse avec Laurent Vimon, il est président de Ceinturie 21.
Alors pour l'instant, le marché est un marché très tendu, il y a beaucoup de pénuries, donc il n'y a pas beaucoup de choix entre les logements performants et les autres. En revanche, ce que nous on a essayé de mettre en œuvre, c'est de faire comprendre aux professionnels du réseau que les clients pouvaient économiser en pouvoir d'achat sur la consommation du logement. C'est-à-dire que le développement durable, c'est un chantier qui peut être philosophique, c'est Nicolas Hulot, les ours blancs et la banquise qui va fondre. Et puis au quotidien, ce sont des gens qui dépensent ou qui surdépensent parce que les logements sont mal isolés. Et si on regarde bien ce chantier, il faut distinguer deux choses. La première, c'est l'isolation du logement, sa performance intrinsèque, et puis ensuite le mode de chauffage. On a observé dans les copropriétés, par exemple, que les thermostats programmables qui permettent de baisser la consommation la nuit sont rarement activés. Dans les maisons individuelles, on sait qu'une maison dont les combles ne sont pas isolés a une déperdition de 20% de son énergie. Donc l'idée pour nous, c'est de dire, aidons nos clients à prendre des bonnes mesures et des mesures simples qui sont peu coûteuses pour que chaque mois, ils dépensent moins en énergie pour chauffer leur logement.
Ouais, enfin, pas sûr que l'on ait le choix. Hein. Les propriétaires renaclent souvent à effectuer des travaux plutôt basiques, pas chers du tout. Alors là, vous imaginez la facture. Et ce n'est pas la réduction des émissions de gaz carbonique, à mon avis, qui vont les convaincre.
Hein. Mais si, on parle que de ça dans les dîners en ville. Maintenant, en plus que l'Académie des sciences a dit sa vérité sur le changement climatique et clos la polémique lancée par les climato-sceptiques...
Denis, pas sûr qu'elle soit close, hein, la polémique, puisque ils ont signé le rapport, ils crient victoire, on nous a entendus. Oui. En tout cas, la ministre de la Recherche, Valérie Pécresse, pense que ce rapport a mis tout le monde d'accord.
Ce rapport de l'Académie des sciences est très clair. Oui, il y a un réchauffement climatique. Oui, ce réchauffement climatique est principalement dû à l'émission de gaz carbonique. Et oui, cette émission de gaz carbonique est principalement liée à l'activité humaine. Alors ça veut dire quoi pour les décideurs? Ça veut dire qu'il faut agir sur cette activité humaine, réduire les émissions de gaz carbonique par tous les moyens pour prévenir une aggravation du réchauffement climatique. Et c'est une priorité politique pour les décideurs.
Mais vous en doutiez avant ?
Je crois que c'était très important que les scientifiques français se prononcent dans la sérénité, qu'il y ait ce débat et qu'il y ait ce consensus, parce que l'Académie des sciences a adopté son rapport à l'unanimité. Ce qui montre que l'Académie joue son rôle plein et entier de parlement des sciences, de parlement de la science française. Et c'est important pour les Français d'être clairement informés. Je le répète, il y a réchauffement climatique, c'est dû au CO2, c'est dû à l'activité humaine. Et donc les politiques doivent agir en conséquence. Et l'argent du contribuable qui a été dépensé pour prévenir le changement climatique a été bien dépensé.
Il faut faire attention, hein, parce que bientôt elle sera peut-être écologiste, hein, elle aussi. Oui, oui. Tenez, et écoutez, du bel canto, c'est formidable ça. Ah oui, écoutez ces cantatrices du fond des mers, parce que là nous sommes avec des baleines. Et il y a une pollution dont on parle peu, ce sont les bruits en mer, Nathalie.
Oui, alors justement, pas le chant des baleines, Denis, pas les crissements des crevettes. Oui. En fait, on parle du bruit généré par l'homme. Aux États-Unis et en Europe, les autorités envisagent sérieusement d'adopter une réglementation pour réduire ces nuisances. Une entreprise du Finistère, InVivo, est en train de chercher la parade. Un rideau de bulles d'air contre le bruit. Écoutez Didier Grosdemange.
On constate en fait qu'il y a beaucoup de bruit généré par les bateaux, par les travaux maritimes, le battage de pieux, par le pétardage par exemple de mines fait par la marine. Et tout ceci génère une activité sonore très intense qui a des conséquences sur le milieu marin, sur les poissons, sur les mammifères marins bien sûr, donc qu'on ne maîtrise pas encore complètement.
Et l'idée c'est d'absorber ce bruit comment ?
Nous travaillons sur un projet d'utiliser un rideau de bulles, un rideau de bulles d'air, pour atténuer le bruit généré par ces activités humaines. Le bruit dans l'eau se déplace beaucoup plus vite que dans l'air. Et donc, en fait, on fait une barrière physique qui va permettre au son d'être absorbé. Donc, ça veut dire que derrière, eh bien, on aura toujours un son, mais qui aura pu être modifié soit en termes de fréquence, soit en termes de vitesse. Donc du coup, son impact va être moindre. On peut avoir des absorptions, par exemple, d'une trentaine ou une quarantaine de pourcents. Alors actuellement, il y a beaucoup d'entreprises, ou même en Europe, on l'utilise d'une manière un petit peu empirique. Donc on met des espèces de tuyaux, alors pas de tuyaux d'arrosage, mais de tuyaux percés de petits trous avec des compresseurs en surface qui vont injecter de l'air et qui vont permettre de produire ces bulles. Dans le militaire, notamment, ça se fait sur les frégates multimissions qui ont des rideaux de bulles, par exemple, pour essayer d'atténuer leur signature et pas être repérés par les sous-marins.
Ils se font passer pour un bateau de pêche ?
Voilà, ils se font passer pour un bateau plus petit.
Et donc les poissons vont nager dans de l'eau gazeuse.
Oui, pourquoi pas.
En gros, c'est à peu près ça. Bah voilà, écoutez, chère Nathalie, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon steak de thon hein, pour ce week-end. Il
y en a ah non, j'en mange plus depuis des années. Bah,
je sais bien, mais je sais. Mais grâce à Monsieur le maire, on peut continuer à en manger. Et puis l'autre chose, ce que l'on pourrait souhaiter, c'est que le futur ministère de l'écologie ne soit pas forcément découpé en tranches de thon.
Ah, ce serait bien qu'il reste un ministère d'État déjà.
Voilà.
Et qu'effectivement, il regroupe les secteurs quand même essentiels que sont le logement, l'énergie, etc. Parce que sinon, c'est terminé. Quoi.
Le suspense va être levé très prochainement.
Merci lundi, normalement. Voilà. Lundi, allez. Mardi, on aura le nouveau
la
gouvernement.
Nouvelle, c'est parfait. Allez, joie, bonheur. Merci Nathalie, au revoir.
À bientôt.
Avons-nous perdu ? It's over. Amour, entends-tu ? It's over. Le bourdon, sais-tu ? It's over.
Le titre, vous l'avez compris, c'était It's Over, c'était Piero Moioli sur France Inter.
L'agenda de CO2 Mon Amour.
Et oui, un petit agenda qui nous emmène d'abord du côté du Vigan, c'était les Roupiers de l'Aigoual. Nous sommes dans les Cévennes, nous rejoignons Éric Doulcier qui est donc le maire pour ces éco-dialogues du Vigan, on va dire une espèce d'université populaire encore jusqu'à aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit ?
C'est protéger la nature, exclusion ou partage. Donc pour nous, c'est un thème intéressant et important puisque nous sommes en zone du parc national des Cévennes.
Oui.
Alors faut-il protéger les milieux hein, doit-on préserver la nature telle qu'on la voit aujourd'hui, qui est issue bien souvent d'un héritage agricole ou de reboisements qui peuvent se faire soit par les hommes, soit spontanés. Ou alors doit-on laisser faire la nature ?
Ça se passe
donc... intervenir.
Voilà, donc ça se passe au Vigan et c'est jusqu'à aujourd'hui. Le numéro de la vie de cette semaine est très intéressant parce que c'est la 4e édition du palmarès 2010 de l'écologie par département. Alors vous avez une grille, on va dire, de lecture. Hein. Ce sont des indices de volonté écologique. Ils ont choisi la gestion des déchets, la mobilisation politique, la qualité de l'air, l'agriculture biologique, la qualité de l'eau, les énergies renouvelables. Et arrive en tête, Gardarem l'environnement, c'est l'Aveyron. Ouais, c'est l'Aveyron qui arrive en tête pour la gestion des déchets, c'est le département du Jura. Faut dire que monsieur Pélissard depuis très longtemps donc a été en avance sur le sujet. En Loire-Atlantique, c'est le département, on va dire, qui vote le plus vert. Dans les Alpes de Haute-Provence, je vais pas vous surprendre, qualité de l'air, donc ça respire la santé. La Drôme dope sa vallée au bio, l'Hérault est le premier à investir dans le soleil. Bon, 95e place, le Val d'Oise est un peu plombé par ses transports. C'est vrai que c'est un département qui est dynamique, mais qui a un peu oublié d'être vert. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, eh bien je vous renvoie sur ce numéro de La Vie, tous les résultats de votre département. Et ça a été supervisé par Olivier Noyas. Eh bien, nous allons nous envoler pour d'autres aventures. On va effectivement s'envoler la semaine prochaine. Je peux vous donner rendez-vous à Montier-en-Der. Montier-en-Der, je disais s'envoler parce que c'est un paradis pour les grues cendrées. L'émission se fera donc là-bas, au Festival de photos animalières, donc dans ce département de la Haute-Marne. On sera avec des photographes, donc des gens qui regardent avec beaucoup d'attention la nature. Donc rendez-vous à Montier-en-Der pour C'est haut de mon amour. Merci à Sandrine Laurent, à Philippe Duclos, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui a réaliser l'émission. De très nombreux sites grâce à Anne Gouzon et ainsi que son site L'Environnement en temps réel. Je vous retrouve demain à 19h54 après les petits bateaux, donc pour La Tulu, mon petit loup.